Excellent réveil à tous. Voici le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un nouvel épisode de blocage dans la saga du Brexit. Hier, les députés britanniques ont dit oui sur le principe de l'accord négocié par Boris Johnson, mais non au calendrier d'examen accéléré du texte proposé pour une sortie de l'Union européenne le 31 octobre prochain. Dans ce journal, nous irons à Londres et à Bruxelles.
Un plan annoncé ce matin pour les aidants en France. Ils sont plus de 8 millions à s'occuper d'un proche.
À s'occuper d'une personne handicapée ou bien d'une personne âgée qui a perdu son autonomie, notamment. Précision avec Laura Laven dans un instant.
Au Chili, Sébastien de Pinel a demandé pardon au peuple chilien et annoncé plusieurs mesures sociales pour calmer la crise.
Le président chilien a annoncé notamment l'augmentation de 20% du minimum retraite et le gel des tarifs de l'électricité pour calmer la colère. Après 5 jours de contestations et d'émeutes qui ont fait 15 morts, reportage sur place avec Clara Dantel.
Et puis la Russie organise aujourd'hui son premier sommet Russie-Afrique.
Après avoir conclu un accord mettant fin hier à l'offensive turque envers les Kurdes, nous analyserons la diplomatie russe sur le continent africain depuis Moscou avec Claude Bruyot. Ils sont entre 8 et 11 millions de personnes, des femmes et des hommes qui aident un proche malade, handicapé ou bien une personne âgée qui a perdu son autonomie. Ce qu'on appelle les aidants représenteront une personne sur 4 d'ici 2030. Le gouvernement doit annoncer une série de mesures ce matin, notamment une indemnité de 43 euros par jour dans une limite de 3 mois maximum en cas de congé forcé pour s'occuper d'un proche. Et l'attente est forte de la part des principaux concernés que vous avez rencontrés, Laura Laven.
À commencer par la reconnaissance des aidants dans leur rôle de tous les jours, un rôle aussi prenant qu'épuisant. Olof a consacré 10 ans de sa vie à Elsa, sa femme malade d'Alzheimer.
On est là tout le temps parce que c'est une présence 24 heures sur 24.
On s'oublie un petit peu dans ces moments-là.
Oui, on n'a pas tellement le choix parce que tout d'un coup, on trouve un monde. On n'a pas de carte, on n'a pas de boussole, mais j'ai suivi des formation pour un aidant à Alzheimer.
En effet, on ne peut pas dire que rien n'est fait pour les proches aidants. Il existe des structures, des coups de pouce financiers, notamment depuis 2016 et l'entrée en vigueur de l'aide au répit, une subvention de l'ordre de 500 euros par an et plus récemment, la création d'un congé indemnisé de 3 mois fractionnable. Tout cela va dans le bon sens, mais selon Marie Bouchot, directrice de la Maison des aînés et des aidants du centre de Paris, il s'agit maintenant d'aller plus loin.
Il y a des aidants qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas les services sociaux, qui disent « mais je ne savais pas qu'il y avait des groupes de parole, des leviers financiers aussi ». Et ça, c'est inquiétant parce qu'il y a beaucoup de services. On ne sait pas à quelle porte frapper finalement. Et effectivement, à mon avis, une grande campagne de communication, je pense que ce serait vraiment nécessaire à ce que toute l'offre en direction des aidants soit beaucoup mieux identifiée, aussi moins confuse peut-être, en développant des systèmes de guichets uniques.
Plus de visibilité, plus de cohérence d'ensemble. Le gouvernement va-t-il répondre à ces demandes? Il semble en tout cas mesurer l'ampleur du problème puisque plus de 500 millions supplémentaires doivent être consacrés à la prise en charge de la dépendance au sein du budget 2020 de la Sécurité sociale.
Laura Laven, c'est une expérimentation qui avait été très médiatisée. Le projet Territoire zéro chômeur de longue durée, lancé par ATD Quart-Monde en 2015, qui concerne aujourd'hui 10 territoires en difficulté, avec des résultats à la clé. 850 personnes embauchées en CDI alors qu'elles étaient très éloignées de l'emploi. Cette expérimentation doit faire l'objet d'une deuxième loi pour s'étendre. Une centaine de territoires sont dans l'attente de cette extension pour laquelle cette loi donc doit être présentée. Mais les fondateurs du projet craignent que le ministère du Travail ne soit en train de reculer. Les explications d'Anne Lorchouin.
Le principe de territoire zéro chômeur de longue durée, c'est d'utiliser l'argent que coûte à l'État un chômeur de longue durée pour le remettre en emploi via une EBE, une entreprise à but d'emploi, dans des territoires défavorisés, sur des secteurs où existe un besoin. Ces EBE sont donc sur pied depuis 2 ans, sur 10 territoires, et à la veille d'étendre le dispositif, cette tribune dans les échos de l'économiste Pierre Cahuc a mis très en colère Laurent Grand-Guillaume, responsable de l'association qui porte le projet. L'économiste fait en effet partie du conseil scientifique d'évaluation de l'expérimentation et il en pointe le coût pour les finances publiques, plus élevé qu'on croit selon lui. Mais pour Laurent Grand-Guillaume, il ne faut pas tout mélanger.
Le fait de mobiliser le coût du chômage pour financer une partie de l'emploi, on parle bien sûr du salaire. Et après, il y a des investissements qui sont réalisés, ce qui est normal, puisque quand on développe des activités de maraîchage, il faut investir dans des serres. Quand on développe une recyclerie, ressourcerie, il faut bien des locaux. Il y a un peu un mélange de tout cela dans son argumentation, d'autant plus quand on prend en compte tous les éléments sociaux. La santé des personnes qui s'améliorent, le bien-être, le territoire aussi qui change quelque part, parce que quand vous avez dans un territoire rural une centaine de personnes qui en retrouvent un emploi et que ça devient la première entreprise du territoire, ça se voit.
Territoire qui voit diminuer leur nombre de chômeurs et d'allocataires du RSA. Or, ces chiffres, comme d'autres effets collatéraux bénéfiques, ne sont pas pris en compte par l'économiste. C'est ce que dénoncent d'autres analystes. Le ministère du Travail a mis les choses au point. Hier, il veillera, je cite, à mieux maîtriser la communication de ce conseil scientifique d'évaluation qui rendra son propre bilan dans quelques semaines.
Anne-Laure Chouin. À la Réunion aujourd'hui, Emmanuel Macron sera accueilli par un appel à la grève générale. Emmanuel Macron, qui doit arriver donc en fin de matinée, toujours en situation de crise sociale aiguë, un an après le mouvement des Gilets jaunes, où le mouvement était très actif sur place pour dénoncer la vie chère et les inégalités sociales. Comment résoudre la crise de défiance démocratique? C'est la question au cœur du livre qui paraît aujourd'hui, signé par François Hollande, qui propose de modifier notamment la Constitution, de supprimer le poste de Premier ministre. Stéphane Robert analysera ces pages de l'ancien président de la République qui, on le rappelle, n'avait pas pu se présenter pour un deuxième mandat dans son biais politique tout à l'heure à 8h15. 8h07 sur France Culture, un nouveau blocage à 8 jours de la date officielle du Brexit. Après 2 votes hier à la Chambre des communes, c'est un énième rebondissement dans cette saga dont la fin semble de plus en plus incertaine, à 8 jours de la date officielle prévue pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Hier donc, les députés britanniques ont voté en faveur de l'accord négocié par Boris Johnson, mais ils ont rejeté ensuite le calendrier pour examiner ce texte via une procédure accélérée avant le 31 octobre prochain. Boris Johnson a alors annoncé la suspension des discussions.
Il va maintenant y avoir plus d'incertitudes qu'avant. L'Union européenne doit décider comment elle va répondre à la demande du Parlement de reporter le Brexit. La première conséquence, c'est que le gouvernement doit agir de manière responsable, prendre des mesures pour accélérer les préparatifs d'une sortie sans accord le 31 octobre. Et puis je vais demander aux responsables européens quelles sont leurs intentions. Nous continuons de penser que nous ne devrions pas demander de report. Nous devrions quitter l'Union européenne le 31 octobre, et c'est ce que je dirais aux responsables européens. Mais d'une manière ou d'une autre, nous quitterons l'Union européenne avec cet accord, puisque le Parlement vient de dire qu'il y est favorable.
Le Premier ministre britannique sous les applaudissements des députés conservateurs. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, recommande aux dirigeants de l'Union européenne d'accepter un nouveau report du Brexit pour permettre aux députés britanniques d'examiner et de se prononcer sur le nouvel accord de retrait conclu par Boris Johnson. Cette option sera-t-elle validée? La balle est en tout cas à nouveau dans le camp de Bruxelles, Angélique Bouin.
La partie de ping-pong continue après avoir déjà reporté 2 fois la date du Brexit, de fin mars à mi-avril, puis d'avril à fin octobre. Voilà donc les 27 États membres invités à nouveau à se prononcer. Mais la donne a changé. S'il s'agit de laisser aux députés un peu de temps pour finir d'étudier un accord par ailleurs validé, nul doute qu'il sera accordé. Nous sommes favorables à un report de quelques jours afin que la procédure parlementaire s'achève à Londres, a confirmé dans la soirée la secrétaire d'État aux affaires européennes Amélie Montchalin. Même tonalité à Berlin, où cette hypothèse d'un sursis dit technique avait déjà été officiellement acté. Mais si le marathon parlementaire londonien venait à faire dérailler le processus de ratification, quelle position adopteraient les Européens? Tout dépend de la suite du feuilleton. De nouvelles élections ou un nouveau référendum ouvriraient sans doute la voie à un report plus long. Mais une demande d'extension destinée à gagner du temps ou à rediscuter l'accord est exclue par la France. Or, la décision doit être prise à l'unanimité.
Angélique Bouin à Bruxelles pour France Culture. C'est un accord qualifié d'historique par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Accord conclu hier avec Moscou et qui met un terme à l'offensive militaire d'Ankara face aux Kurdes à la frontière syrienne. La Russie qui organise aujourd'hui son premier sommet Russie-Afrique. Vladimir Poutine reçoit les représentants d'une trentaine d'États africains à Sotchi aujourd'hui et jusqu'à demain. Avec 20 milliards d'euros d'échanges commerciaux en 2018, la Russie effectue moitié moins d'affaires que la France et surtout 10 fois moins que la Chine. L'objectif pour le Kremlin est d'élargir son marché au-delà des pays d'Afrique du Nord qui représentent 80% de ses échanges sur place à Moscou. Les explications de Claude Bruyot.
Accélérer le mouvement. Pour le Kremlin, l'objectif de ce premier sommet Russie-Afrique est simple. Il faut à la fois accroître le rythme, le volume et la nature des échanges avec le continent africain. Cantonné depuis des décennies au commerce des armes et aux investissements dans le secteur énergétique, la Russie espère enfin diversifier ses relations économiques en Afrique en s'appuyant d'abord sur ses réseaux avec les anciens pays communistes qu'elle avait soutenus à l'époque contre leurs colonisateurs occidentaux. Mais Vladimir Poutine sait que le rayonnement de son pays sur le continent africain dépendra aussi et peut-être surtout de sa capacité justement à sortir de ce clientélisme historique. Pour s'imposer face aux Occidentaux et aux Chinois, les Russes n'hésitent d'ailleurs pas à prendre des risques plus ou moins calculés dans des pays africains instables, comme par exemple en Centrafrique. Ainsi, les hommes en armes du groupe privé russe Wagner, habitués à des zones de conflit comme la Syrie ou le Venezuela, ont œuvré également dans cette région. Pour autant, la Russie souhaite également promouvoir les échanges culturels et éducatifs, en accueillant par exemple davantage d'étudiants africains dans ses universités. Une cinquantaine de nouveaux accords ont été signés ces dernières années dans le domaine de l'enseignement supérieur.
Claude Bruyot. Boeing annonce hier soir le limogeage de son responsable de la division d'aviation commerciale. Il s'agit du premier départ d'un cadre dirigeant depuis le début de la crise du 737 MAX. Ces avions immobilisés au sol depuis mi-mars après 2 accidents qui ont fait 346 morts.
8h12 sur France Culture, c'est la suite des matins avec le journal de Sophie Delpont au Chili. Après 5 jours de manifestations massives contre la vie chère et les inégalités sociales, le président a annoncé des mesures concrètes hier soir, parmi lesquelles une hausse des pensions de retraite et du salaire minimum.
Oui, certaines de ces réformes font partie des revendications formulées par les Chiliens ces derniers jours. Des manifestants que Sébastien Piñera déclare avoir entendus. Les précisions à Santiago de Clara Dantec.
Sébastien Piñera s'est adressé aux Chiliens mardi soir après l'entrée en vigueur pour la 4e nuit consécutive du couvre-feu mis en place dans plusieurs villes du Chili.
Aujourd'hui, nous nous sommes réunis avec les présidents de partis politiques qui ont accepté notre invitation au palais présidentiel pour chercher ensemble à contribuer à un grand accord national qui nous permet de mettre en place et avec une grande urgence un important agenda social qui répond aux nécessités et aux espoirs de tant de Chiliens.
Le président chilien a notamment annoncé une hausse de 20% des pensions de retraite les plus basses, une revalorisation du salaire minimum, le gel des tarifs d'électricité et une augmentation des impôts pour les plus fortunés. Des mesures qui répondent en partie aux demandes des manifestants. Beaucoup de Chiliens réclament aussi le retrait de l'armée déployée dans les grandes villes du pays. Sébastien Piñera.
Je sais que certains veulent en finir avec l'état d'urgence et avec le couvre-feu. Nous le voulons tous. Mais en tant que président chilien, je me dois de lever l'état d'urgence que lorsque je serai certain que l'ordre public, la tranquillité, la sécurité des Chiliens et la protection des biens publics et privés sera respectée.
Reste maintenant à savoir comment les Chiliens accueilleront ces annonces après 5 jours de mobilisation intense au cours desquels les manifestants ont régulièrement appelé à la démission de Sébastien Piñera et à un changement de constitution.
Clara Dantec à Santiago pour France Culture. Une femme sur 8 risque d'être frappée par le cancer du sein. L'opération Octobre Rose, depuis 1994 en France, permet de multiplier les initiatives et notamment la prévention par le dépistage. Ensuite, certaines de ces femmes sont traitées par chimiothérapie, mais désormais, on propose à 80% des malades une hormonothérapie, Tara Schlegel.
L'hormonothérapie consiste à bloquer plus ou moins la production d'hormones accusées de nourrir en quelque sorte le cancer du sein. Ce traitement est très efficace, il divise par 2 les risques de rechute et on conseille maintenant de le prendre pendant 10 ans. L'étude a donc porté sur l'impact des 2 traitements, chimio versus hormones, impact sur la qualité de vie des femmes. Le travail, dirigé par le docteur Inès Vache-Louis, a montré que la chimiothérapie a des effets négatifs, notamment sur la fonction physique, capacité à bouger, à s'exercer, sur la fonction cognitive, rapidité de pensée, mémoire, ainsi que sur l'image que les femmes se font de leur corps. Mais la détérioration de la qualité de vie des patientes soignées par hormonothérapie, cette fois, est encore plus forte. Selon le même auto-questionnaire, baptisé C30, c'est un questionnaire européen qui vaut pour plusieurs cancers, Tous les paramètres sont touchés. Les femmes souffrent de douleurs, d'insomnie, d'une dégradation de la fonction sociale, relation avec les proches, etc. Ces effets sont plus sensibles chez les femmes ménopausées. En résumé, l'étude montre que le traitement hormonal, qui paraissait jusque-là assez inoffensif, impacte vraiment la vie quotidienne des malades. Cela dit, il ne s'agit pas de renoncer à cette thérapie très efficace, mais de mieux accompagner les patientes pour que ces troubles ne les conduisent pas à renoncer à se soigner.
Tara Schlegel, attention, des pluies diluviennes signalées sur 9 départements placés en vigilance orange ce matin. Vigilance orage, inondation sur le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gard ou encore les Pyrénées-Orientales notamment. La pluie devrait largement dominer la moitié ouest du pays, du brouillard sur la Bourgogne et le Grand Est. Ce matin, les températures moyennes sont comprises entre 11 et 27 degrés du nord au sud.